matin,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez seulement, deuxième partie d'émission. Et place à l'aviation, place à vos témoignages, place à une petite partie de rêve. Souvenez-vous de ce beau slogan d'Air France pour faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Eh bien, l'A380 devait contribuer à ce rêve. Inauguré en 2005, il reste le plus gros avion du monde, une merveille de technologie. Mais sa taille, son prix seront devenus son talon d'Achille. Airbus annonce la fin de la production en 2021. Alors on va parler quand même des bénéfices technologiques que cet avion va laisser derrière lui, de cette saga avortée tout de même, et des histoires de l'aviation qui ont porté à peu près les mêmes chroniques de mort annoncées, on le verra pourquoi, de la Caravelle au Concorde, quand la technologie dépasse parfois ces créatures. Souvenirs partagés avec vous, souvenirs inoubliables, nous dit Jean-Seb Desmarais, de la Caravelle, mon premier voyage en avion quand j'étais enfant, tour dans le cockpit avec les pilotes. C'est ça aussi, ces avions qui nous font rêver, avec nos invités et vos appels, chère Julie.
Au 39-21, vous composez le numéro et on vous rappelle.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Vous vous souvenez peut-être de l'inauguration de l'Airbus A380, dévoilé en 2005, le plus gros porteur du monde dont l'Europe était si fière, un avion capable de transporter jusqu'à 850 passagers. Bonjour Michel Polaco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, pilote, expert en aéronautique, vous qui avez écrit une brève histoire de l'aviation, c'est Jean-Claude Béard. Yann Kochenek est avec nous également, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Bonjour.
Bonjour.
On recevra dans quelques minutes un ancien pilote du Concorde qui nous fera partager aussi ses grands souvenirs dans le cockpit. Mais d'abord, parlons de cet Airbus A380, Michel Polaco. Car l'idée était évidemment pour Airbus, dans ce match, dans cette concurrence inépuisable avec Boeing, de faire la différence et d'afficher son caractère unique avec cet avion.
Oui, en fait, l'objectif d'Airbus, qui est une société jeune, hein, puisqu'elle est née en 1970, alors oui, que Boeing est née en 1920, voyez la différence, c'est qu'Airbus voulait compléter son catalogue. Il fabriquait des avions de petite taille, monocouloir, l'Airbus 320 et toute la famille qui va autour. Il fabriquait des avions de moyenne taille, l'Airbus 330, l'Airbus 340, qui étaient des très longs courriers et qui pouvaient transporter jusqu'à en gros 400 passagers. Mais le monopole du très gros porteur, c'était le Boeing 747 de chez Boeing, puisque Boeing avait absorbé McDonnell Douglas qui fabriquait le DC-10 puis le MD-11 et que Lockheed avait cessé de fabriquer le Lockheed 1011, le Tristar. Donc c'était pour Boeing un monopole qui leur permettait de vendre leur avion au prix qui leur convenait, donc très cher, de faire de très bonnes marges, et grâce à ces marges, ça leur permettait de casser les prix sur les avions plus petits et en particulier sur la famille du Boeing 737, famille dont les concurrents chez Airbus, la famille 320, étaient donc contraintes à des tarifs relativement bas et qui n'étaient pas les meilleurs, en tout cas pour la rentabilité d'Airbus. Donc ça veut dire qu'ils ont décidé d'attaquer ce monopole, et puis ça leur permettait d'avoir donc une gamme complète dans leur catalogue. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé l'Airbus 380. C'était un kit tout double, un pari qu'a lancé Jean-Luc Lagardère en l'an 2000, et ça a permis de faire un très bel avion, d'ailleurs un avion qui est bien réussi, qui a traîné un peu pour être achevé, puisque vous savez qu'il y a eu des difficultés notamment avec les Allemands sur une partie qui leur revenait en matière de construction. Donc l'avion est arrivé un petit peu tard. Et puis finalement, cet avion devait bénéficier d'une chose importante, c'était on voulait désencombrer le ciel, on voulait désencombrer les aéroports et faire des économies de carburant. Avec la 380, en transportant jusqu'à 853 passagers plus 20 membres d'équipage d'un seul bloc. D'ailleurs, aujourd'hui, Londres est le terrain des A380, puisqu'avec ces deux petites pistes, il est le seul terrain, il est le terrain le plus encombré d'Europe. Mmh. Et bien donc, ça permettait de tout désencombrer. Or, il se trouve que on n'a pas réduit le nombre de fréquences sur les grands terrains d'aviation. On continue à faire 10 vols par jour, ben, 12 vols par jour, 15 vols par jour par compagnie.
On est dans une croissance.
Sur des liaisons comme New York, etc. Et donc la 380, finalement, il a trouvé son créneau sur quelques liaisons. Alors je vous dis Londres, qui est le terrain favori des A380, parce que c'est un terrain très encombré. Et puis évidemment, les Émirats, qui en ont acheté énormément, utilisent énormément d'A380. Mais c'est vrai que le marché qu'ils ont visé est un marché qui ne s'est pas développé. Puis le pétrole n'a pas augmenté beaucoup non plus. Il est aujourd'hui à $66 le baril. Il était monté jusqu'à 110, $115 le baril. Et ça aussi, ça n'a pas favorisé la 380.
Mais Michel Polaco, vous le disiez, c'était un pari qui tout double, hein, Yann Kochenek, car c'était le plus gros avion du monde, le gros porteur. Sa taille finira d'ailleurs par devenir sa faiblesse. la 380 nécessitait deux passerelles, une pour le pont supérieur, une pour le pont inférieur. Et tous les aéroports n'étaient pas équipés pour accueillir cet avion déjà.
Tout à fait, il a fallu que le monde du transport aérien, c'est-à-dire les aéroports, mais aussi tout ce qui tourne autour du service d'un avion, c'est-à-dire l'avitaillement, je veux dire charger les repas à bord, nettoyer l'avion, etc. etc. Tout le monde du transport aérien a dû s'adapter et investir pour accueillir cet avion qui est hors norme, disent certains, de par sa taille, mais qui avait été conçu de manière à quand même pouvoir desservir les plateformes existantes. C'est-à-dire que, certes, on a rajouté une passerelle, une troisième passerelle pour embarquer ou désembarquer les passagers, mais de par sa taille, 80 mètres sur 80 mètres, la 380 avait été conçue pour justement éviter de trop lourds investissements aux aéroports.
Mais c'est un avion très cher, Michel Polaco, et qui l'a rendu hyper dépendant à quelques pays, et trop hyper dépendant à ces quelques pays. Hein. Je ne sais pas quoi,
ça, c'est vrai
à combien on est d'avions d'A380 dans le monde, mais c'est une petite flotte.
Il y en a 234 qui ont été livrés, il y en a en gros 280 maintenant qui sont commandés puisqu'il y a eu des annulations, et c'est vrai que c'est un nombre beaucoup trop faible par rapport à ce qui était prévu par les constructeurs, hein, par le constructeur. Ils en visaient 250 au tout début du programme pour arriver à se rentabiliser. Avec les retards qu'il y a eu, etc., on est arrivé à plutôt 400-450. Donc vous voyez qu'on ne sera pas arrivé à la rentabilité, même si Airbus fonctionne très très bien, même si les avions des autres catégories se vendent très bien, et même si donc la survie d'Airbus n'est plus en jeu, ce qui aurait pu être le cas lorsque ce programme a été lancé il y a 20 ans.
Oui.
Juste un petit mot sur les passerelles. Vous savez, quand on prend un Boeing 747-400 au Japon pour aller de Tokyo à Osaka, il y a 600 passagers dans l'avion, et il y a entre 2 et 3 passerelle pour arriver à embarquer les passagers sur les deux ponts, puisqu'il y a un pont supérieur, un pont inférieur. Donc, si vous voulez, l'histoire des passerelles, elle n'est pas extrêmement originale quand même.
Bon, Airbus, en tout cas, annonce la fin de son géant du ciel en 2021, faute de commandes, faute de rentabilité. Je vais vous demander, messieurs, quelle sensation avez-vous eue lorsque vous êtes montés à bord ? Vous serez nos yeux aux uns et aux autres, et cela nous replongera dans les grandes sagas de l'histoire de l'aviation. Ce qu'il restera, au moins, de cet A380 à 10, 20, 30 ou 40 ans de terme. On en parle avec Michel Polaco, Yann Kochnek et vos témoignages au standard avec Julie, on vous attend.
Au 39-21. Le tour de la question sur la fin de l'Airbus A380. Chronique d'une mort annoncée.
Quelle trace laissera cet avion magnifique dans le ciel européen, mais aussi dans le ciel d'Air France ? Et quels sont les grands géants de l'aviation qui nous ont fait rêver ? Nous sommes avec Michel Polaco, expert en aéronautique, pilote lui-même évidemment, Yann Kochnek, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Les témoignages attendus d'Henri Fournier, pilote de ligne, ancien pilote du Concorde, qui viendra nous éclairer aussi avec des images. Justement, messieurs, partagez des images pour vous. Cet A380, nous l'avons vu en photo, bien sûr, certains d'entre vous ont peut-être voyagé, vous nous le direz. Mais quand on entrait et quand on entre toujours à bord de la 380, Yann Kochnek, qu'est-ce qu'on ressent de particulier ?
Eh bien, au départ, on ne ressent rien de particulier. Je veux dire, c'est un avion extrêmement normal, la 380.
Un avion commercial grand. Voilà.
C'est à la défense du
Concorde.
C'est
le seul qui est le pont supérieur sur toute la longueur.
Ce qui change quand vous rentrez dans la cabine, ce qui vous frappe, c'est l'escalier. Vous entrez un peu comme dans un autre petit hôtel. Quoi. Donc, vous avez cet escalier. Donc, soit vous êtes un passager. Alors, tout dépend de l'aménagement qui a été choisi ou avait été choisi par les compagnies aériennes. Mais selon la classe que pour laquelle vous aviez payé, soit vous restiez sur le pont inférieur, soit vous montiez soit par l'escalier de devant, soit par l'escalier arrière, vous montiez à l'étage supérieur.
Ah oui, on avait vu des chambres absolument décorées comme des chambres d'hôtel par la compagnie Emirates, notamment. C'était un petit bijou.
Etihad
aussi.
Hein.
Oui, Michel Polaco.
Oui, absolument. Il y a des compagnies qui l'ont traité. Mais vous savez, il y a de très belles photos. J'ai écrit un livre qui s'appelle A380 chez Hachette, qui est sorti il y a quelques années. Livre, vous pouvez trouver énormément de photos de tous ces aménagements extrêmement luxueux. Alors, soit qui ont existé à l'état de prototype, soit qui ont été mis en service. Et il y a des compagnies comme Singapore Airlines, comme Qantas, comme Etihad, comme Emirates, comme je vous ai dit Singapour, qui ont vraiment offert à leurs passagers des services absolument mirobolants.
Et pour la modique somme de combien, Michel?
Ah ben alors ça dépend, si vous voulez, évidemment, là on ne parle plus beaucoup d'argent quand on, quand on loue une suite et qu'on a une douche à sa disposition. vous voyez, ça compte en dizaines de milliers d'euros, hein, un déplacement, un voyage pour aller, je ne sais pas, du hub d'Emirates aux Émirats jusqu'à Singapour, jusqu'à Sydney, etc.
Oui, c'est ça.
Évidemment, ce sont des prix très élevés.
Est-ce que c'est
Mais
comme
en revanche,
avion de
les passagers classiques, comme vous et moi, payaient des prix au contraire relativement bas. Air France et toutes les autres compagnies ont réussi à casser les prix avec les Airbus 380. Et encore, aucune compagnie ne l'a utilisé à toute sa capacité, c'est-à-dire 853 passagers.
Oui.
Mais cet avion, on ne peut pas dire que ce soit la fin de la 380. C'est la fin de la construction de la 380 en 2021. Mais vous allez voir que ces avions voleront encore dans 20, dans 30 ans et qu'ils auront encore du succès, même s'ils voleront avec les moteurs qu'on leur a prévus au début des années 2000.
Ah oui, ça c'est intéressant, parce qu'évidemment on ne va pas immobiliser ces A380, Yann Kochnek.
Non, ils ont encore une vie commerciale jusqu'en 2030. Donc facilement, ces avions vont continuer à voler, notamment chez Emirates, donc il y en aura un peu moins dans d'autres compagnies aériennes qui vont progressivement le retirer de l'exploitation. Hein, je crois que c'est Air France.
Cadair
France, mais oui, pour en revenir à ces aménagements luxueux, c'est vrai que c'était un des arguments commerciaux d'Airbus au début du lancement du programme, c'était de dire vous avez 600 mètres carrés à votre disposition, un duplex de 600 mètres carrés à votre disposition, et vous en faites ce que vous voulez. Mmh. Donc c'est vrai que certaines compagnies y ont associé en effet des aménagements extrêmement luxueux, mais aussi rentables. Hein. C'était pour attirer une clientèle, ce qu'on dit premium, c'est-à-dire première classe, classe affaires, qui a les moyens de payer ce type de service.
C'était un pari aussi. Christophe est avec nous au Standard Europe 1 39-21. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour, je ne sais pas si vous êtes déjà monté, vous, dans un A380.
Si, j'ai eu cette chance. J'ai fait un Paris-New York sur l'A380.
Ouais, formidable.
Donc, bon, super avion. Mais bon, le problème, c'est que, je ne sais pas si M. Polaco sera d'accord avec moi, le problème de cet avion, c'est qu'il ne s'est pas vendu parce qu'il y a quand même eu des grosses réticences de certaines autorités pour que les compagnies achètent cet avion.
Et des réticences, qu'est-ce que vous entendez par là?
Je sais pas, moi je n'ai jamais vu beaucoup de A380 sur des compagnies américaines.
Oui, oui, les Américains qui continuent à privilégier leur Boeing. Hein.
Ouais. Voilà. Oui, mais attention, j'aimerais nuancer.
Yann Kochnek, allez-y.
Oui,
allez-y.
Non. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Non, on ne peut pas dire ça. Non. C'est vrai que les compagnies américaines et les compagnies japonaises étaient les cibles du départ. Faisaient partie d'ailleurs en 1996, quand Airbus organise du côté de Toulouse ou de Carcassonne une réunion un peu secrète. Il y a deux Américaines qui sont là et il y a deux Japonaises.
D'accord.
Et c'est vrai que à l'époque, Delta, Northwest, United ont un paquet de 747 en service. Bon, vont arriver les attentats de 2001, qui vont se traduire par une restructuration drastique du transport aérien américain. C'est-à-dire que on va assister à un phénomène de fusion, de faillite d'abord. Et grâce à la protection du chapitre 11, donc ces faillites permettront à ces compagnies de se restructurer, de revoir leur réseau, réduire la taille de leur flotte, réduire la taille de leurs avions.
C'est donc pour avions à 850 passagers,
c'était plus dans le cahier des charges des compagnies américaines.
D'accord.
Et la même chose après pour les japonaises, c'est-à-dire elles étaient des cibles, une compagnie comme Japan Airlines, au moment où Airbus travaille sur la 380, c'est 60-747. Donc c'est un client cible évident et comme le rappelait Michel, c'est des compagnies japonaises qui utilisent leur 747 avec 500 à 600 passagers bien serrés sur leur réseau intérieur. Donc là aussi...
Christophe, vous avez la nuance
Si vous voulez, et là aussi arrive 2008, pardon, et j'arrête, arrive 2008 et la crise financière, et là aussi les deux compagnies japonaises sont obligées de se restructurer, de réduire de taille et donc revoit leur plan de flotte.
Donc on perd des marchés déjà de fait, Christophe.
Mais je crois qu'on peut dire quand même, à la question de notre auditeur, c'est qu'effectivement cet avion est victime d'une réglementation qui, en gros, ne respecte pas ce qu'on pouvait penser être les règles du 21e siècle, c'est-à-dire l'environnement. Mmh. C'est quand même assez fabuleux que dans les années 80-90, pendant un temps, on ait incité les compagnies à réduire les fréquences pour désencombrer les aéroports, pour désencombrer le ciel. Il faut savoir que le contrôle du ciel est de plus en plus complexe et que plus il y a d'avions, et plus il faut de systèmes de contrôle, de contrôleurs, etc., etc. Que sur les aéroports, il n'y a même plus la place pour parquer, pour garer les avions à certains moments. Donc les aéroports sont assez encombrés, en tout cas beaucoup d'entre eux, surtout les grands hubs. Le ciel est encombré et donc cet avion était destiné à l'économie de pétrole, l'économie d'espace, la réduction de l'encombrement du ciel et des aéroports.
Oui, donc
et finalement, aucune des réglementations européennes et mondiales n'ont poursuivi dans cette direction et on a continué à multiplier les fréquences. Et multiplier les fréquences, ça veut dire des avions plus petits.
Et oui.
Donc le 380 a perdu sa raison d'être.
Ouais.
C'était un avion pour l'environnement et finalement, il ne l'aura pas.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, pourquoi Boeing ressort un gros 747 là ? Parce qu'il a autant de place que dans
le 747 de Boeing n'est qu'un cargo.
Non mais le gros, le 800. Là,
le 777.
Ouais.
Oui, le 800. Le 747-800, n'existe plus qu'en version cargo. C'est terminé, il n'existe plus en version passager.
D'accord.
Au départ, c'était juste une évolution. Une évolution.
Christophe, vous y connaissez en tout cas. Je ne sais pas si vous travaillez un peu dans la partie. Ah, en tout cas, ça vous intéresse.
Non, je ne travaille pas dans la partie. Moi, je suis dans la radio.
C'est très bien. Vous êtes pilote privé ? Vous avez votre brevet ?
Non, je suis dans la radio médicale, moi, dans le médical.
Mais
j'adore les avions.
Je vois.
C'est vrai que.
Ah, Flight Radar, c'est quelque chose, ça. Ouais.
Non, il faut être honnête, Boeing est en train de reprendre le monopole des gros porteurs avec le Boeing 777.
Alors, on va y revenir. Merci beaucoup, Christophe, parce que vous nous donnez l'occasion, grâce à votre question, de revenir sur ce match Boeing-Airbus avant de revivre les grandes sagas de la Caravelle au Concorde, parce que Boeing-Airbus sont deux compagnies, deux constructeurs qui s'affrontent. Airbus depuis 1970, Boeing depuis 1920, comme le rappelait Michel Polaco. En dehors de ce match, y a-t-il des constructeurs qui existent encore ? On fera le point avec Yann Kochnek, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos, avec Michel Polaco, qui est toujours avec nous, expert en aéronautique, pilote professionnel. À tout de suite.
Europe 1.
La semaine dernière, Airbus a annoncé la fin de la production de l'A380, faute de commandes suffisantes. Et cela tombe au moment où son rival Boeing célèbre en grande pompe le 50e anniversaire de son 747.
Et bien voilà, la pérennité, la durabilité de ces grands modèles. Alors évidemment, nous ne sommes pas en reste, on va en parler avec Airbus et ses propres avions. Yann Kochnek et Michel Polaco sont avec nous, rédacteurs en chef du magazine Air et Cosmos pour Yann Kochnek et Michel Polaco, experts en aéronautique. Ce n'est pas parce que Boeing fête en grand pompe, en effet, les 50 ans de son 747 que nous n'avons pas, nous aussi, des gloires européennes nationales, Michel Polaco.
Ben, nous avons des avions qui sont très très dignes de fierté, qui sont produits alors par le seul. Vous savez, il y a deux constructeurs d'avions, de gros avions dans le monde, Airbus et Boeing. Mm-hmm. Et puis après, vous avez deux constructeurs d'avions de taille un peu plus petite qui sont Bombardier et Embraer au Brésil. Bombardier maintenant s'est allié sur la construction d'avions avec Airbus.
Bombardier, les Canadiens.
Et Bombardier, c'est les Canadiens. Mm-hmm. Et Embraer s'est allié avec Boeing. Donc, si vous voulez, quasiment dans les mois qui viennent, on pourra quasiment dire qu'il n'y a plus que deux constructeurs d'avions de transport de passagers dans le monde. Mais c'est vrai que Airbus a fait une percée spectaculaire, absolument fantastique, avec notamment l'Airbus 320 et toute sa famille. Il faut quand même se dire que Boeing a lancé le Boeing 737 qui a fait son premier vol en 1967. Airbus est arrivé 20 ans après avec l'A320 qui était un avion résolument moderne avec des commandes de vol électriques et tout un tas de systèmes très évolués. Et aujourd'hui, Airbus a vendu plus d'A320 que Boeing n'a vendu de Boeing 737. C'est-à-dire que c'est quand même la preuve d'un succès absolument formidable. Maintenant, c'est vrai que sur le haut de gamme, sur le marché des très gros porteurs, Airbus avec la 350, la 330, la 340 qui était un quadri-réacteur a été arrêté, arrive à faire un peu le joint entre les Boeing 777 et les Dreamliner Boeing 787, mais le très très haut de densité, l'avion le plus gros, c'est le Boeing 777 et ça va être pendant très longtemps le Boeing 777.
C'est ça, ça restera l'avion le plus gros, même si nous avons encore 234 Airbus A380 qui
vont... Il y en aura 274.
Et qui continue continueront à voler, même si la production est
arrêtée.
Est arrêtée en 2021. Oui. Par exemple, si vous prenez un Paris-New York, Paris-Los Angeles, vous avez de bonnes chances de voyager sur un A380 avec des billets qui ne sont pas forcément plus chers en classe éco que des billets sur un avion
Ils sont
normaux,
même forcément moins chers. Si vous voulez, il y a quand même des compagnies qui vont finir par se décider à mettre plus de passagers dans leurs avions.
C'est ça.
C'est quand même assez fabuleux de se dire que cet avion vole depuis maintenant presque 15 ans, donc il est déjà plus tout à fait jeune, et il est fait pour transporter jusqu'à 853 passagers et 20 membres d'équipage, et la compagnie qui en transporte le plus, c'est Emirates, sur certains vols où il y a 615 offres de places de passagers, 615, alors vous voyez, on est quand même très très loin du compte, et il est bien évident qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir quelques transporteurs géniaux ou low cost qui vont récupérer cet avion, qui commence à se vendre sur le marché de l'occasion, pas très bien d'ailleurs, et c'est sans doute quelque chose qui lui a beaucoup nui ces dernières années, qui a peut-être été une raison pour laquelle Emirates a annulé des commandes. Il ne se vend pas très bien, donc il ne se vend pas très cher, et donc il y a des compagnies qui vont le racheter et qui vont pouvoir l'exploiter au mieux de ses capacités.
C'est ça, vous avez aujourd'hui 10 000 Airbus, tout confondu, qui volent actuellement dans le monde, dans ce match face à Boeing. En tout cas, cette saga avortée nous rappelle aussi d'autres rebonds dans l'histoire de l'aviation. Je voudrais qu'on parle d'un avion mythique avant, évidemment, d'ouvrir la page Concorde. La Caravelle, messieurs, qui fait appel à beaucoup de souvenirs, y compris de nos auditeurs qui nous envoient des petits messages. La Caravelle, premier vol en 1955. Alors là, on ne parle pas encore d'Airbus, qui n'existe pas, Yann Kochnek. Qui construit la Caravelle à cette époque?
C'est la Senkazo, si ma mémoire est bonne, ou c'est pas encore
l'aérospace. Sud-Aviation.
C'est Sud-Aviation, oui, d'accord.
Oui.
Donc, il faut vous dire qu'on est en pleine sortie de Deuxième Guerre mondiale, et c'est vrai que la Caravelle symbolise un peu le retour de l'aéronautique française.
Oui, c'est un avion français.
C'est un avion français. Après les années noires de la guerre, il y a une industrie qui a été détruite, pillée pendant les années de guerre, et on démontre qu'en quelques années, on est capable, les ingénieurs français, les techniciens français, les compagnons français sont capables de démontrer que la France est de nouveau dans la course aéronautique.
Oui, il faut dire, Michel Polacco, que c'est le premier jet proposé sur le marché court et moyen courrier, la Caravelle. C'est un avion technologiquement...
Non ? Eh bien non, le premier jet proposé sur le marché du court moyen courrier, c'est le 2 Havilland Comet, produit par les Britanniques,
Comet,
qui fait son premier vol en 1949, qui est un très bel avion, et qui, hélas, en 1952 et 1953, va être l'objet de trois catastrophes. À l'époque, on ne connaissait pas très bien la problématique de vieillissement des métaux. C'était des avions pressurisés qui volaient à très haute altitude, et il y a trois avions qui vont exploser en vol et qui vont s'écraser. Donc le Comet va être arrêté. Néanmoins, il sera repris quelques années après, et après de longs travaux, et on a repêché les épaves en mer des comètes. Il va être repris quelques années après, il va terminer sa vie il y a quelques années chez les militaires britanniques comme avion de patrouille maritime sous le nom de Nemrod. Mais néanmoins, lorsque sur le continent la France décide de lancer la Caravelle, eh bien elle va racheter à De Havilland le brevet du cockpit du comète, et finalement le cockpit du comète va être repris sous une certaine forme sur la Caravelle, qui vole, comme vous le dites, en 1955. Grande année en France, puisque c'est l'année du premier vol du Mirage 3 et l'année du premier vol de l'Alouette 2. Alors vous vous rendez compte, c'était quand même le premier hélicoptère à turbine au monde, et c'était le premier avion extrêmement performant d'assaut en matière d'avion de combat, 1955.
Et vous avez le 19 mars 1959, la compagnie française qui reçoit sa première Caravelle. Air France reçoit Lorraine, qui est baptisée par Yvonne de Gaulle. Pourquoi cet avion a-t-il marqué les esprits? On revient sur cet avion Caravelle supplanté ensuite par la Super Caravelle, et sur la saga Concorde avec nos invités Yann Kochnek, Michel Polacco et le pilote de ligne, ancien pilote du Concorde, Henri Fournier, qui nous rejoint.
Jusqu'à 11h, nous parlons des avions mythiques, de la Caravelle au Concorde, en passant par le Constellation. Il y avait des hélices, non? C'est ça?
C'est un avion américain. C'est pas un avion français.
Non, on en parlait pendant la pause, parce que Michel Polacco, c'est à bord d'un Constellation que Marcel Cerdan a perdu la vie, avion à hélice, mais qui était aussi...
C'était un DC-4.
Michel fait une véritable encyclopédie.
Ça s'est passé aux Açores.
Absolument. Je voudrais qu'on revienne sur la Caravelle. Des auditeurs nous envoient encore la Caravelle avec le logo Air Inter ces avions qui ont marqué les esprits. Hein. Il y a eu la Caravelle, puis la Super Caravelle, même famille.
Il y a eu 12 Super Caravelles, donc vous voyez, oui, c'est même pas beaucoup. En fait, ça a été le problème des Français qui, à l'époque, n'ont pas su faire grandir la Caravelle. Donc, on a construit un très bel avion, très réussi, qui a eu beaucoup de succès, comme disait le général de Gaulle, la belle, la douce Caravelle, etc. Et en face de ça, il y avait les Britanniques qui étaient... très très bon en matière d'avions à réaction, qui fabriquait plusieurs modèles d'avions chez Vickers ou chez De Havilland. Et puis les Américains, les Russes, donc vous voyez, il y avait quatre grands pays qui fabriquaient des avions. Et ça commençait à devenir un vrai problème de concurrence, parce qu'on commençait à pouvoir exporter des avions.
Oui,
et hélas, on n'a pas su poursuivre le programme Caravelle. À un moment donné, à la demande de la compagnie Sterling, norvégienne ou enfin du Nord, ou scandinave en tout cas, on a fait 12 super caravelles qui ont fait le bonheur d'Air Inter, puisqu'elles ont été rachetées par Air Inter, qui les a exploitées jusqu'à la fin de leur vie. Mais la Caravelle s'est arrêtée à 292 exemplaires, alors que probablement il aurait été intelligent de faire ce qu'a fait Douglas avec le DC-9, par exemple, ou Boeing avec le 737, qui en ont fabriqué des milliers, pour le Boeing, même des dizaines de milliers.
Le fait est qu'elle n'était pas adaptée suffisamment à la demande croissante du trafic aérien, c'était des avions qui n'étaient pas taillés pour.
Il fallait la moderniser, il fallait lui mettre. Vous savez, un avion, c'est une cellule, des moteurs et des équipements électroniques. il fallait lui remettre des nouveaux moteurs, mais en Europe, en France, on savait pas fabriquer des... on n'a jamais su fabriquer des moteurs d'avions civils. On sait aujourd'hui, en coopération avec les Américains, avec General Electric, on fabrique le très beau CFM56 ou la formule LEAP, qui est la formule la plus moderne, mais on n'avait pas de moteur. On mettait des moteurs anglais sur la Caravelle, d'abord des moteurs Avon, puis des moteurs américains, Pratt & Whitney. En fait, on n'avait pas de moteur. Et donc, on n'a pas su faire évoluer la Caravelle.
Mais en même temps, si vous me permettez, l'échec de la Caravelle et l'échec du Comet ont fait comprendre aux Européens la nécessité de travailler ensemble.
Oui,
voilà. D'où la création d'Airbus en 1970. Voilà,
alors, ça a été aussi... d'abord Concorde, et puis après suivra la création d'Airbus.
Alors, pour le petite parenthèse pour la Caravelle, vous trouvez notamment un modèle de la compagnie Air Inter au musée aéronautique de Blagnac. Il faut souligner l'existence de ce musée.
Et au musée de l'air du Bourget.
Et bien sûr, Blagnac, c'est près du siège d'Airbus, musée Aéroscopia, et au musée de l'air du Bourget, évidemment. Puisque vous parliez du Concorde, ouvrons cette page maintenant, avion mythique s'il en est, dans l'aventure commercial aussi de l'aviation. Nous sommes en ligne avec Henri Fournier. Bonjour Henri.
Oui, bonjour Wendy.
Vous êtes pilote professionnel, vous êtes aujourd'hui pilote instructeur à l'aéroport de Castres-Mazamet et surtout vous avez été pilote du Concorde et je sais que vous en parlez toujours avec un regard ému car c'était pas rien. Le Concorde pour un pilote, c'est un peu le Graal finalement, Henri Fournier.
Oui, le Concorde c'était... j'ai aimé tous les avions sur lesquels j'ai volé. Mais j'ai aimé passionnément cet avion, le Concorde, qui était l'avion de tous les superlatifs. Par sa forme, son élégance et ses performances, ça a été, à mon avis, l'avion le plus merveilleux de ces 50 dernières années. Et je l'ai piloté pendant 7 ans, et c'était chaque fois un bonheur de prendre les commandes de cet avion mythique.
Qu'est-ce que vous ressentez de particulier quand on passe d'un Airbus à un Boeing à un Concorde? Est-ce que vraiment, il y a une parenthèse, il y a une petite bulle autour de vous?
Oui, il y a une parenthèse, c'est certain, puisque déjà le stage pour accéder au Concorde durait 5 mois.
Aïe.
Alors, les stages de 2 mois sur 747-400, c'est la dernière machine que j'ai pilotée, dans le commandant de bord sur long courrier. Et c'est vrai que on a l'impression de passer d'un camion à une Formule 1.
Ah oui, vous comparez quasiment le Boeing à un camion. Dites-moi, approchez-vous un peu.
C'est une très grosse machine de 400 et quelques tonnes, 410 tonnes de décollage. Alors que le Concorde a une masse au décollage maximum de 185 tonnes, donc c'est une différence. Mais il y avait un rapport masse-puissance au décollage extraordinaire.
Mais alors justement, quand on faisait... Rapprochez-vous un peu de votre téléphone, Henri Fournier, on vous entend mal. Quand vous reliez Paris à New York, non pas en 8 heures, 10 heures, 9 heures, 11 heures, mais en 3 heures avec le Concorde, qu'est-ce qu'on ressent physiquement? Est-ce qu'on se sent plus fatigué? Comment avez-vous éprouvé ces vols, vous, Henri Fournier, avec cette vitesse colossale des pics à 2200 km/h?
Paradoxalement, quand j'ai pratiqué le long courrier, avec décalage horaire et les vols de plus de 11 heures, 12 heures, 14 heures, Concorde, c'était 3h30 entre Paris et New York.
Oui.
Mais 3h30 où il y avait une attention soutenue. Voilà, il fallait gérer... beaucoup de choses, et le mécanicien avait une place très importante dans cet avion. On l'appelait l'homme qui bouge toujours. Il transférait le carburant pour passer en supersonique, pour aligner le centre de gravité, le centre de poussée, je parle un peu technique,
Et donc, il fallait transférer le carburant en accélérant des réservoirs, des 13 réservoirs que nous utilisions vers de l'avant vers l'arrière. Et ça c'était permanent, plus l'équilibre latéral, plus les contraintes thermiques, parce qu'à ces vitesses-là, à 2200 km/h, nous chauffions à 128 degrés par moins 56 extérieurs. Vous voyez, l'énergie cinétique. Donc, le gros problème du supersonique, du Concorde et des futurs supersoniques, ça sera vraiment de refroidir la cabine.
Oui, parce que évidemment, Michel Polaco, Henri Fournier parle des futurs supersoniques. L'aventure du Concorde s'est terminée et nous avons tous en mémoire le drame de Gonesse. Mais l'aventure du supersonique n'est pas finie, Michel Polaco.
Alors, l'aventure de Concorde ne s'est pas terminée à Gonesse, hein, puisque vous savez que les avions sont repartis en vol le 7 novembre 2001 et que ça a été d'ailleurs l'occasion d'un vol très émouvant et d'un accueil très émouvant par le maire de New York 2 mois après les attentats du 11 septembre. Et puis, c'est vrai qu'en 2003, pour des raisons économiques, on a arrêté les Concorde et puis ça faisait 27 ans qu'ils volaient. Ils commençaient à être désuets dans plein de domaines, même si c'était les avions les plus modernes du monde, les plus rapides du monde, mais ils commençaient à être désuets et c'est vrai qu'il fallait s'arrêter. Mais surtout, on avait compris une chose, c'est que le coût de la vitesse était inabordable. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Et pour arriver à voler au-dessus de la vitesse du son, les Américains ont pensé, quand ils ont lancé leur Boeing 787, fabriquer un Sonic Cruiser, c'est-à-dire un avion qui aurait volé un petit peu au-dessus de la vitesse du son et qui donc aurait été beaucoup moins complexe à faire que Concorde. Et finalement, ils ont renoncé et ils ont fait le Dreamliner, le Boeing 787, qui vole à la même vitesse que les autres avions. La vitesse coûte beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, il n'existe pas de moteur permettant de faire ce que faisaient les moteurs de Concorde. Personne n'a jamais fabriqué au monde des moteurs qui tiennent pendant 4 heures à vitesse supersonique, ce qui était le cas des moteurs de Concorde fabriqués par Rolls-Royce et la Snecma.
Donc on conserve, nous, dans les différents musées, cette fierté, Henri Fournier, même si des supersoniques sont créés dans l'avenir, le Concorde restera évidemment une aventure unique pour vous et pour la France et pour les Européens.
Et les Anglais.
Et les Anglais, bien sûr.
Oui. Le Concorde restera une aventure unique et restera encore longtemps une aventure unique. Comme le disait Michel Polaco, le problème, ce sont les moteurs. Hein. Faire des moteurs qui tiennent 4 heures en vol supersonique, c'est très complexe. Et Rolls-Royce anglais étaient des moteurs performants. Ceci étant, moi, je pense qu'il y a encore des cellules qui travaillent soit chez Airbus, soit chez Boeing, d'ailleurs. Cellules restreintes, certainement, mais sur les futurs supersoniques. Et bien d'autres. Ça sera très limité parce que c'est vrai que ça coûte cher le supersonique en carburant, mais pourquoi pas d'autres formes d'énergie et d'autres formes de propulsion.
En tout cas, vous avez volé 7 ans sur le Concorde, vous avez fait l'un de ses tout derniers vols, Henri Fournier, appareil opéré par deux compagnies, Air France bien sûr, et vous parliez des Anglais, les co-constructeurs British Airways, c'était vraiment la fierté de part et d'autre de la Manche aussi. Vous restez avec nous, Henri Fournier, si vous voulez aussi témoigner de ces avions qui nous ont fait rêver avec nos auditeurs, avec Michel Polaco en ligne avec nous, pilote et expert en aéronautique, auteur d'une brève histoire de l'aviation chez Jean-Claude Béart. Yann Kochnek va nous donner son expertise aussi sur le Concorde, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. A tout de suite pour parler des grandes légendes de l'aviation.
On vous parle des grands géants de l'aviation. Grands géants, c'est un peu un pléonasme. Des géants de l'aviation tout court. Avec Wendy Bouchard et ses invités, Michel Polaco qui est en ligne. Il est pilote expert en aéronautique. Également en ligne avec nous, l'ancien pilote du Concorde, Henri Fournier. Et en studio, Yann Kochnek, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos.
Et on profite de l'annonce d'Airbus, la fin de la production de l'Airbus A380 en 2021. Un avion le plus gros porteur du monde qui aura fait rêver, mais voilà, qui n'est plus forcément en phase avec la demande et avec les prix opérés par le marché, par les différentes compagnies aériennes. Nous en parlons avec nos invités de ce que la technologie quand même peut récupérer comme bénéfice de tous ces gros porteurs, du Concorde à l'A380. Est-ce que Michel Polaco, on avait vraiment vu des bons technologiques à l'issue de ces sagas, même avortées en l'occurrence ?
Chaque fois qu'on fait un nouvel avion, il y a des évolutions ou des révolutions technologiques. L'A380 n'a pas représenté des révolutions technologiques. Oui. On a fait évoluer l'avion vers ce qu'on appelle l'avion plus électrique, c'est-à-dire un peu moins de systèmes hydrauliques, un peu plus de systèmes électriques. On a beaucoup amélioré les systèmes d'entertainment, de distraction à bord, avec quelque chose de très évolué, mais qui maintenant se retrouve sur d'autres avions aussi. On a fait évoluer l'ambiance à bord des avions, hein, l'éclairage avec les LED, etc. On a même été obligé d'inventer des systèmes pour lutter contre le silence, parce que vous savez que cet avion est tellement silencieux qu'on entend ce qui se passe une ou deux rangées derrière soi.
Ah oui, le Concorde,
c'est un peu indiscret.
Ça, hein.
Ah ben non, à bord du Concorde, il n'y avait pas de bruit.
Non,
c'était l'extérieur. Mais à bord du Concorde, il y avait peu de bruit. Mmh. Non, non, on était très bien à bord du Concorde. Mais si vous voulez, bon, c'est vrai que l'A380, c'est un avion qui a été construit en même temps qu'on fabriquait l'Airbus 350 qui se préparait, l'Airbus 330 et 340 qui évoluaient, que Boeing développait les 787 et les nouvelles versions du 777, et que tout ça, ce sont des progrès qui se font un peu partout dans le monde, beaucoup sur l'électronique des cockpits, les systèmes de navigation, les systèmes d'aide au pilotage, parce qu'on parle des avions, mais on oublie toujours de parler du contrôle aérien. Il faut se rendre compte qu'on est en pleine révolution du contrôle du ciel, et que petit à petit, les avions vont communiquer entre eux et communiquer avec les contrôleurs par des voies tout à fait différentes et par des systèmes beaucoup plus évolués. De même, la gestion des aéroports, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. Mmh. De manière à permettre plus de fluidité du trafic et évidemment toujours accroître la sécurité, même si elle est très importante. Donc, vous voyez, le commercial, le technique, mais ça comprend aussi les infrastructures au sol, ça comprend... Vous voyez, il n'y a presque plus de balises au sol. Maintenant, on les démonte un peu partout. On utilise le GPS comme moyen principal de navigation. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux avec tous les systèmes de transmission qu'on a par satellite et toutes les capacités qu'il y a pour que les avions puissent se poser un peu partout, sans avoir des infrastructures coûteuses.
Voilà, comment globalement tout évolue et comment la technologie va suivre, Michel Polaco. Finalement, on parle de saga depuis tout à l'heure, et je vais peut-être un peu vite en disant saga avortée, parce que quand on regarde bien, vous rappeliez la durée de vie, Yann Kochenek, du Concorde, 27 ans, la fin de la production d'Airbus attendue en 2021, ça veut dire qu'il aura volé, peu ou prou, 30 ans. On est finalement exactement dans la durée de vie d'un avion
tout à fait.
Classique, pour ne pas prendre de risques aujourd'hui.
Tout à fait. C'est aussi, bon, j'aimerais relativiser la chronique d'une mort annoncée pour l'Airbus, parce que quand en 96, quand Airbus réunit une vingtaine de grandes compagnies aériennes, il y a à peu près 1747 qui volent dans le monde à ce moment-là. Et entre 96, date de cette réunion, et le premier vol de l'A380, Boeing va en vendre 260 de plus. Donc, ça fait 26 ventes par an. Donc, si vous voulez, à l'époque, pour les gens d'Airbus, il y a un marché. Et même si on n'en prend que 40%, ça fait quand même 400 avions. Ça, c'est le remplacement des 747 qui volent. Et après, il y a la croissance du trafic. Donc, si vous voulez, ça a été quand même un pari raisonnable et pas un pari audacieux, l'A380.
C'est pour d'ailleurs que les 3500 personnes qui travaillent, les Européens, sur l'Airbus A380 seront redéployées sur d'autres sites. Donc, ce n'est pas du tout un accident industriel, c'est une mort qui sera encadrée.
Bien sûr, progressive, tout à fait. D'autant plus que Airbus a en effet pas mal de travail sur la famille A320, sur la famille A350. Donc, tous ces mètres carrés libérés vont permettre d'assembler d'autres avions, et les 3000 personnes qui travaillent encore sur le programme seront mobilisées sur la 320, la 330. Et puis, ce qui va disparaître, ça va être cette chaîne logistique hors norme. Alors là, oui, pour la 380, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que cet avion dont cet avion a souffert, c'est les coûts de cette chaîne logistique, des bateaux spécialement conçus, des routes réaménagées.
Voilà,
des
un camions, assemblage européen aussi.
Un assemblage européen, mais si vous voulez, hors norme cette fois.
Oui.
Et pour un avion dont on savait quand même si on savait qu'il y avait un marché de 700 avions, c'était quand même pas 10 000 à 320. Donc l'erreur de départ n'a pas été commerciale ou d'une mauvaise appréciation du marché, ça a été de mettre en place une répartition industrielle extrêmement coûteuse.
Et c'était aussi le deal, voilà, Airbus européen.
Voilà,
encore quelques instants avec Michel Polaco. Henri Fournier, tiens, qui nous parlera aussi de ce musée à Blagnac qui permet de voir ces spécimens encore magnifiques de la caravelle au Concorde, ces avions qui nous font rêver jusqu'à 11h. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, le standard, vous êtes encore ouvert avec Julie.
Le 39-21.
Europe 1.
jusqu'à 11h pour quelques minutes encore. On vous raconte l'histoire des grands avions qui ont marqué les esprits. Wendy Bouchard.
Et il y a une ville, évidemment, qui marque aussi quand on parle d'Airbus, de l'assemblage notamment de ces grands avions. C'est Toulouse. Et vous n'êtes pas très loin, Henri Fournier. Vous êtes à Castres-Mazamet où vous êtes pilote instructeur aujourd'hui à l'aéroclub. Toulouse et son musée, aujourd'hui, où l'on peut voir d'ailleurs un des derniers spécimens du Concorde, Henri Fournier.
Oui, on peut voir même deux Concordes. On peut voir le Sierra Bravo qui est à l'intérieur, qui a servi aux essais parce qu'il y a eu 20 Concordes fabriqués.
Oui.
Et dont 6 ont servi, bien sûr, aux essais. Et les 14 autres ont été partagés entre British Airways et puis la France. Et deux des Concordes, donc le Sierra Bravo qui a servi aux essais et le Fox Charlie qui est le dernier Concorde avec lequel que j'ai ramené à Toulouse le 27 juin 2003.
Vous avez fait le dernier vol?
Le dernier vol français s'est effectué, donc il y avait un bel accueil fabuleux. Et ces deux Concordes sont dans le musée Aeroscopia, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et je vous conseille d'aller le voir, c'est un musée superbe, avec bien sûr, il n'y a pas que les Concordes, il y a aussi d'autres avions, hein, l'Airbus A300 également, et bien d'autres avions Warbird.
Oui, c'est fou comme quand on est tout petit face à ces avions au musée Aeroscopia qu'évoque à l'instant Henri Fournier ou au musée du Bourget, Michel Polaco. Même si on n'est pas fou d'aviation, on se prend à rêver parce que c'est une page d'abord de notre histoire commune et puis de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents aussi. Hein.
Oui, c'est vrai que Concorde a déchaîné énormément de sentiments, probablement beaucoup plus évidemment en France et en Grande-Bretagne parce que c'était les pays constructeurs. Mais vous parliez tout à l'heure d'évolution, de révolution, et quand même, il faut le noter, et c'est vrai, Concorde a représenté une véritable révolution technologique pour les deux pays qui l'ont construit, la France et la Grande-Bretagne. Ça nous a permis de sauter plus qu'une marche, mais un véritable escalier en termes de compétences, ce qui n'est pas le cas de la 380 qu'on a su faire assez simplement, tandis que pour Concorde, il a fallu inventer, inventer et inventer encore. Et puis ensuite, pour l'exploiter, le faire voler dans de bonnes conditions, il a fallu inventer et inventer encore. Donc, si vous voulez, Concorde laisse une trace qui sera certainement indélébile dans l'histoire du transport aérien. C'est une éclipse dans l'histoire du transport aérien parce que pendant une petite trentaine d'années, des gens comme vous et moi ont pu voler à Mach 2. Moi, je dois avoir 100 heures de vol à vitesse supersonique, vous imaginez. Vous prenez n'importe quel pilote de chasse sur Terre, aucun d'entre eux n'a dépassé 20, 30 ou 40 heures de vol à vitesse supersonique, parce que c'est quelque chose de très, très rare. Et les pilotes de ligne, comme Henri Fournier, sont des gens qui ont des milliers d'heures de vol, comme les hôtesses de l'air et les stewards, ou les mécaniciens navigants qu'il y avait sur les Concordes, sont des gens qui ont des milliers d'heures de vol à vitesse supersonique. Et ça, je pense qu'on ne va pas le revoir avant très longtemps. Le prochain avion supersonique sera peut-être un avion d'affaires, mais le prochain avion de ligne supersonique, je ne crois pas que je le connaîtrai.
En attendant, pour revenir sur l'expertise et le rebond technologique, Yann Kochenek, que souligne à l'instant Michel Polaco, ça veut dire que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, aujourd'hui, ont des compétences technologiques assemblées dans Airbus, dans le consortium européen, qui sont fondamentales et très nourries de ces expériences passées.
Ah ben c'est clair que, comme le soulignait Michel, l'avion hors norme, ce n'est pas la 380, c'est le Concorde. Donc c'est un bombardier stratégique qu'on a transformé en avion civil. Et c'est un avion qui réduit le temps. La 380 ne réduit pas le temps. C'est un avion on ne peut plus normal. Donc comme le soulignait Michel, toutes les technologies qui ont été inventées à un moment de Concorde ont nourri les programmes Airbus qui sont arrivés après.
Je n'ai pas le détail. C'est-à-dire que chaque pays aujourd'hui
son
cahier des charges justement sur les constructions.
Ça a été l'expérience franco-britannique. Oui. Et après, au moment d'Airbus, sont arrivés les Allemands qui ont apporté d'autres compétences, notamment leur capacité à s'organiser industriellement. Et au fur et à mesure de la construction d'Airbus, eh bien, ces savoir-faire se sont auto-nourris, si vous voulez.
Ça veut dire, par exemple, la 380, les ailes de la 380 sont
en Grande-Bretagne. C'est un peu le centre d'excellence des voilures.
D'accord.
Airbus,
le nez.
Tout type d'avion.
Oui.
Donc après, il y a eu un partage industriel.
Le nez, forcément. C'est Meault.
Oui, alors il y a le nez Meault.
Nord Aviation.
Mais il y a des bouts aussi en Allemagne, si vous voulez. La 380, c'est un monstrueux
vous
hors norme.
Une plaque tournante incroyable.
Montage logistique et industriel qui, à mon avis, est aussi une des causes de son échec, oui. Surtout la principale.
Tout étant assemblé à Toulouse. Mmh. Je remercie...
Ou à Hambourg, il y a trois lignes de montage de 320.
Oui, non, mais on ne parle pas de 320, Michel, on parle de la 380.
Ah oui.
Non, mais surtout, c'était ce va-et-vient incessant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en plus de ce montage industriel monstrueux, pour des raisons politiques, symboliques, tout le monde voulait avoir son bout d'A380. Mmh. Donc, si vous voulez, on faisait les ailes en Angleterre très bien, parce que c'est quand même le centre d'excellence Airbus sur tout type d'avion. Donc là, il y avait une cohérence. Mais l'avion, si vous voulez, était assemblé à Toulouse. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux d'A380 qui partaient d'Allemagne pour aller à Toulouse. On assemblait. Une fois assemblé, l'avion repartait à Hambourg pour avoir sa peinture, pour avoir sa cabine. Et selon l'accord entre Allemands et Français, si c'était un avion de Singapore Airlines, il fallait que l'avion revienne à Toulouse.
À Toulouse, ouais.
Alors vous imaginez les coûts.
Voilà.
Le kérosène consommé, les équipages qu'il faut payer. Enfin,
la coopération européenne aussi dans tous ces états.
Voilà,
merci.
Tous états.
Merci Yann Kochnek, directeur du magazine, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Je salue Michel Polaco et son histoire de l'aviation chez Jean-Claude Béard. Merci Michel pour
de
votre
rien,
expertise
merci.
À chaque fois. Et Henri Fournier, ancien pilote du Concorde qui est président de l'aéroclub de Castres-Mazamet. Merci Henri et bonjour.
Avec plaisir, Wendy.
Bonjour.
Je pourrais dire quelque chose, peut-être.
Oui, allez-y.
Oui, c'est qu'on a parlé du Concorde, mais un journaliste du Monde a dit ce qui part vendre dans le Concorde, c'est la part de rêve qu'il a suscité. Voilà.
Et voilà, la part de rêve qu'il a suscité. Merci beaucoup Henri Fournier. À demain, ma chère Julie. Merci à
demain.
Toute l'équipe.
C'était Wendy Bouchard.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.